Écoute.
Écoute.
Émancipé.
Émancipé.
Le podcast de l'école émancipée.
Surveiller et punir ou éduquer. Volet 2. La prison comme solution. Une porte se ferme. Derrière cette porte, des mineurs. Hier ou aujourd'hui. Une émission préparée et présentée par Elisabeth et Gilles, avec des extraits de la chanson « Prison » de François Béranger, de « Prison pour mineurs » d'Attic, de la bande originale de la série Validée, et un extrait d'un concert des Berruriers Noirs avec le célèbre « Vivre libre ou mourir ».
Je vis dans un pays et c'est aussi le vôtre où un gamin perdu a fleuri mes rogis. Pour un vol de bagnole se fait serrer la vis. On la lui serre tellement la vis qu'il n'en peut plus. Un jour la coupe est pleine et on le retrouve pendu. Bon Dieu, quel beau pays, bon Dieu, quel beau pays.
Cette chanson de François Béranger a été écrite en 1974. Mais ses paroles sont-elles vraiment dépassées? Aujourd'hui encore, des jeunes vont en prison et parfois même passent des quartiers des mineurs à ceux des adultes. À l'heure où d'aucuns et d'aucunes réclament toujours plus de répression, nous avons voulu voir quelle était la réalité de ces jeunes en prison. Pour cela, nous avons interrogé Loris, éducateur de la PJJ, dans un quartier de mineurs, dans une prison en dehors de la région parisienne.
Bonjour.
Bonjour.
Ravi de te rencontrer. Donc, bon, je fais une présentation extrêmement rapide. Je te présente. Tu t'appelles Loris Fontana. Tu es éducatrice de la PJJ. J'ai souhaité te rencontrer et faire cette interview parce qu'il me semble que beaucoup de gens parlent de la possibilité d'enfermer les jeunes. Certains, alors pas chez nous, mais certains présentent même cette possibilité comme étant une solution miracle à la délinquance, mais que j'ai un peu l'impression que les gens ils savent pas de quoi ils parlent et qu'ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui travaillait en milieu carcéral. Or, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu te rencontrer. Toi, tu as travaillé en milieu carcéral. Alors, je vais d'abord te demander combien de temps tu as travaillé en milieu carcéral et dans quel type de structure tu étais.
Alors moi, j'ai travaillé pendant 4 ans au sein d'un quartier mineur. Je viens de quitter mes fonctions dans ce quartier mineur. J'ai repris ma mission en milieu ouvert. Un quartier mineur, en fait, c'est un petit espace au sein d'une prison classique pour majeurs, mais qui est intégralement dédié uniquement à des mineurs. Voilà, mais on est intégré à un lieu d'enfermement pour majeurs.
Les jeunes dont tu as eu à t'occuper ont quel âge environ?
Alors la majorité, ils ont entre 16 et 18 ans. Maintenant, un magistrat, il a la possibilité d'enfermer un mineur à partir de 13 ans. Mais en réalité, voilà, entre 13 et 16 ans, il faut d'abord qu'une alternative à la détention lui soit proposée. Donc généralement, c'est sous la forme d'un centre éducatif fermé. Et il faut que le jeune n'adhère pas à ce placement en centre éducatif fermé. Il part en fugue ou qu'il se passe des incidents et ensuite il est incarcéré. Alors qu'à partir de 16 ans, il peut être incarcéré immédiatement.
Directement, oui. Ça n'est pas à ce moment-là de 16 à 18 ans, c'est une décision de justice.
Hein. Ouais, c'est ça.
Et ça n'est pas une alternative. Disons que ça n'est pas un choix du jeune dans une alternative.
Voilà, non, généralement, c'est que le magistrat estime qu'il y a un certain nombre de conditions ne sont pas remplies pour que le jeune ne se remette pas en danger, la victime ne soit pas en danger, la société ne soit pas en danger. Voilà, quand même, on estime en France que la détention des mineurs, c'est vraiment l'ultime recours. La politique pénale, elle évolue. Enfin, moi, en tout cas, dans les 4 années où j'ai évolué au quartier mineur, j'ai quand même bien senti qu'il y avait un durcissement de la politique pénale et où certains profils de gamins finissaient plus facilement en détention qu'avant.
Alors justement, parlons de ces profils de gamins. Tu avais quoi comme profil de gamin ? On arrive dans ces quartiers, on est incarcéré quand on a, disons, entre 16 et 18 ans, parce qu'on a fait quoi ?
Ça, c'est une question qui est hyper difficile, parce qu'en réalité, ils sont assez extraordinaires les uns les autres, et ils ne se ressemblent pas. Bien sûr qu'il y a beaucoup de ces gamins-là qui sont extrêmement vulnérables, qui ont connu beaucoup de violence dès leur enfance, qui ont parfois été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qui n'ont pas suffisamment été protégés et du coup qui se retrouvent à commettre un certain nombre de délits et à finir en détention. Mais en réalité, on a aussi des gamins qui sont primo-délinquants, donc c'est leur premier passage à l'acte délictuel et qui se retrouvent incarcérés assez rapidement. Après, voilà, il y a vraiment tout type de passage à l'acte. Il n'y a pas de règle. Ça peut être des stupéfiants, ça peut être de la violence, des vols, des affaires de mœurs. Enfin, il y a vraiment tout type de profil, mais en tout cas voilà, c'est surtout des jeunes qui sont en grande fragilité, en grande difficulté et en grande souffrance.
Je vais continuer à essayer de cerner la population. Quand tu dis des stupéfiants par exemple, sont des jeunes qui dealent des stupéfiants, sont des jeunes qui consomment des stupéfiants ou qui sont dans des bandes?
Bon, tout ça, ça arrive, ouais. Qui consomment, qui dealent, qui sont aussi victimes de l'emprise de bandes, de gangs de leur quartier et voilà, qui ont du mal à s'en extraire. Ouais.
Et on considère que les mettre dans une prison, c'est une façon de les extraire du quartier.
C'est ça. Donc c'est, effectivement, c'est une solution envisagée par la justice aujourd'hui pour les mettre à distance. Parfois même, c'est verbalisé comme ça. C'est pour les protéger aussi de l'environnement dans lequel ils évoluent. Alors du coup, c'est sans connaître le revers de la médaille, puisque ils sont loin d'être protégés quand ils sont incarcérés.
Alors justement, les conditions d'incarcération, qu'est-ce que c'est exactement quand tu as des jeunes comme ça? Tu t'occupais de combien de jeunes dans ton quartier? Donc dans la prison, il y avait combien de jeunes?
Alors c'est donc le quartier mineur, en tout cas dans celui dans lequel je travaillais, il y avait une vingtaine de places. Alors elles sont rarement toutes pourvues. Mais à la fois, il y a toujours un certain nombre de cellules qui ne sont plus opérationnelles parce qu'elles sont extrêmement dégradées. Voilà, donc c'est une vingtaine de jeunes maximum. Après, ils sont la règle en France, c'est l'encellulement individuel, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être doublés dans leurs cellules, donc ils sont seuls, hormis s'il y a une grave crise suicidaire et que ça peut aider de se retrouver avec un co-détenu. Voilà, sinon, ils sont seuls. Et ensuite, les conditions de détention, c'est-à-dire que la prison, c'est... J'imagine comme on se l'imagine de l'extérieur, c'est un milieu qui est extrêmement violent, où en fait les fragilités ne sont pas acceptées. À la fois, les jeunes entre eux ne tolèrent pas les fragilités, mais à la fois aussi, c'est quelque chose qui est entretenu par l'administration pénitentiaire qui colle beaucoup aussi à cette réalité des jeunes. Une vraie banalisation du recours à la violence. Dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a un jeune qui s'énerve un peu, il y a une crise émotionnelle qui apparaît, tout de suite la réponse c'est la contention physique. Puis si ça va trop loin, ensuite on a recours à l'isolement, puisque le gamin peut être placé au quartier disciplinaire si l'incident est trop grave. Ces contentions qui arrivent quand même très régulièrement, elles atteignent aussi à l'intégrité de l'individu, hein. C'est des moments qui peuvent être humiliants, Moi, c'est des moments où je me mets toujours très, très à l'écart. Je ne souhaitais pas être spectatrice de ça parce que c'est vraiment violent et difficile à voir. Donc, j'ose pas imaginer quand on le vit soi-même. Et puis, effectivement, après, entre eux, ils sont pas tendres non plus. Mais à la fois, quand ils évoluent au quotidien dans un climat qui est aussi difficile, c'est compliqué pour eux d'être tolérants, solidaires entre eux.
Alors, tu parles du fait qu'ils sont pas tendres entre eux. Bon, tu as parlé de cellules individuelles, donc ils sont encellulés de façon individuelle, à minima la nuit, mais ils passent un certain temps entre eux, en groupe, à 15...
Alors, en fait, la première priorité de l'administration pénitentiaire, c'est la sécurité. Et du coup, ils prennent toutes les mesures nécessaires pour que la sécurité soit constamment assurée. L'un des moyens qu'ils ont trouvé, c'est de les séparer au maximum. Donc en fait... En réalité, en quartier mineur, ils sont ils sont en groupe, mais c'est des groupes qui sont, 3, 4, 5, grand maximum, 5 jeunes ensemble. Et effectivement, c'est sur des temps qui sont très contraints. Ils ont une heure de promenade minimum par jour, 2 heures quand ils ont de la chance, quand il y a du temps, quand ils ont été sages, parce que ça fonctionne beaucoup aussi au mérite. Donc c'est 1 à 2 heures de promenade par jour. Ils ont 1 à 2 heures de cours le matin. Et puis après, ben, c'est au bon vouloir des intervenants qui sont présents. C'est-à-dire que nous, les éducateurs, on essaye de passer le maximum de temps avec eux. Voilà, mais c'est pas formalisé dans leur planning. Ils ont aussi un petit peu d'activité physique qui est prévue dans la semaine. Après, s'ils ont des besoins de santé, voilà, c'est les seuls moments où ils sortent de cellule. Mais en réalité, en fait, quand on est un adolescent et qu'on est incarcéré, on est en cellulier en moyenne 22-23 heures sur 24. Les repas sont pris en cellule. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'isolement.
Mais l'isolement, ça rend dingue.
Ouais, tout à fait. Alors, ils se parlent beaucoup aux fenêtres. C'est un milieu qui est très bruyant, la détention. Et notamment la détention des mineurs. Ils se parlent énormément aux fenêtres, donc on les entend. Alors, ils se racontent des choses. Parfois, ils s'insultent. Voilà, c'est une de nos réalités aussi. Et ça fait... Charge mon Tipeee. Charge mon Tipeee. Je suis dans mon hall et je rêve d'être sur une plage. AMTP. Suffit d'une sirène et ta vie change en une heure. Je me revois sur le banc de la prison pour mineurs. Me noter au milieu du Jackson. Parce que j'ai du pilon dans le caleçon. Le bandit a tué le garçon. Je peux te monter en l'air pour un klaxon. Me noter au milieu du Jackson. Parce que j'ai du pilon dans le caleçon. Le bandit a tué le garçon. Je peux te monter en l'air pour un klaxon. J'ai tellement compté de Zéo que j'en ai des crampes. La rue la vraie, pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma sœur, moi je veux le meilleur. Et fuck la prison pour mineurs. J'ai tellement compté de Zéo que j'en ai des crampes. La rue la vraie, pas seulement sur l'écran. Pour ma mère et ma sœur, moi je veux le meilleur. Et fuck la prison pour mineurs.
Et tu as parlé d'éducation, de scolarisation en fin d'études. Tu as mentionné, je sais pas, 2 heures le matin, il me semble que tu as dit quelque chose comme ça. Alors, d'abord, scolairement, en général, ils viennent d'où ? Ils sont en rupture scolaire quand ils arrivent ? Ils n'allaient plus en classe ? Est-ce que tu peux parler un peu de cet aspect de scolarisation ?
Alors, c'est pareil, c'est assez divers, mais bien sûr qu'il y en a un certain nombre qui sont en décrochage depuis un certain temps et qui ne mettent plus de sens dans leur parcours scolaire, mais il y en a certains qui arrivent et qui sont incarcérés alors même qu'ils étaient inscrits dans un processus scolaire et un passage de diplôme, donc ça c'est toujours extrêmement problématique. Il y a des enseignants de l'éducation nationale qui sont affectés au centre pénitentiaire. Pour le quartier mineur, c'est 18 heures d'enseignement par semaine qui sont prévues pour l'ensemble des gamins. Donc si on a un groupe de gamins, si on, admettons on a que 5 jeunes, ils sont tous ensemble, c'est 18 heures, c'est plutôt raisonnable, c'est plutôt, voilà, c'est acceptable. Par contre, dès qu'on arrive à parce qu'ils s'entendent pas, les jeunes, et la pénitentiaire a tendance à les séparer assez rapidement, dès qu'on arrive à 4, 5, 6 groupes différents, bon bah je te laisse imaginer, tu divises ces 18 heures par le nombre de groupes, ça fait plus grand chose à la fin. Voilà, donc ça c'est déjà une première difficulté pour l'accès à la scolarité. Et puis, il y a la question des niveaux, parce que c'est-à-dire qu'on fait des groupes de jeunes en fonction de leur affinité, voilà, pour que ça se passe le mieux possible. Mais parfois, tu vas avoir un gamin qui a un niveau CFG, puis un gamin qui a un niveau bac, et du coup, ça demande aux enseignants d'arriver à jongler et à s'occuper de tout le monde en même temps. Des gamins qui sont parfois un peu turbulents, hein, voilà, c'est bien sûr. Puis en plus, c'est les seuls moments où ils se retrouvent ensemble, donc c'est sûr qu'ils apprécient parfois s'en saisir pour s'amuser un peu. Et puis après, c'est aussi la question des moyens qui sont alloués à l'éducation nationale. En tout cas, nous, le rectorat, ça fait à peu près 2 ans, je crois, qu'ils ont fermé l'accès au passage. Parce que jusque-là, les détenus pouvaient passer les épreuves théoriques du CAP. Donc c'était plutôt chouette, c'est-à-dire qu'ils ressortaient, ils avaient au moins ça d'acquis, ils avaient plus qu'à faire la partie pratique, leur stage, et puis à la fin, ils obtenaient leur diplôme. Et en fait, ça fait 2 ans là que le rectorat interdit l'inscription des jeunes qui n'ont pas 18 ans dans le passage du CAP. Ce qui fait que du coup, les enseignants, ils ont parfois du mal à mobiliser les jeunes parce qu'il n'y a pas vraiment de dynamique, puisque voilà, c'est 1 heure, 2 heures, parfois pas, par jour. Et en plus, quand à la fin, quand il n'y a même pas un diplôme, c'est encore plus compliqué pour les mobiliser.
J'ai un ami qui a travaillé comme enseignant en milieu carcéral et qui me disait qu'une de ses difficultés de prof, c'était qu'il n'arrivait pas à avoir un groupe stabilisé. C'est-à-dire que ce n'était pas toujours les mêmes en face et qu'il faisait cours, mais ceux qui étaient en face de lui n'avaient pas forcément eu la leçon d'avance. Ça se passe de la même façon chez les jeunes. Je pense, quand tu as évoqué la question de disciplinaire, par exemple, de quartier disciplinaire, j'imagine qu'à ce moment-là, ils sont privés de tout.
En fait, on a une réunion par semaine, pluridisciplinaire, entre les différents acteurs de la détention, et notamment donc la PJJ, puis l'éducation nationale et la pénitentiaire. Et on évoque les situations individuelles des jeunes, et à la fin de cette réunion, on constitue les groupes, qui effectivement peuvent évoluer en fonction des difficultés qu'il peut y avoir entre eux, ou des demandes des gamins qui aspirent à être avec d'autres personnes. Et ce qui fait qu'effectivement, ça évolue énormément. Et ensuite, t'as raison, à partir du moment où ils sont placés au quartier disciplinaire, ce qui arrive quand même assez régulièrement, là, ils n'ont plus accès à rien, et notamment, ils n'ont plus accès aux cours.
Ça peut durer de combien de temps, un placement au quartier disciplinaire ?
Le maximum, c'est 7 jours pour un mineur.
7 jours où, en fait, ils sont coupés d'absolument tout.
Ouais, c'est des conditions qui sont encore plus dégradantes, encore plus humiliantes, où vraiment, ils n'ont accès à rien. Alors, ils ont des bouquins, ils ont une radio, voilà, pour ne pas se sentir trop seul, parce que c'est quand même hyper angoissant de se retrouver comme ça, dans le silence. Et puis même les lieux, quoi, c'est-à-dire que c'est des meubles qui sont vissés au sol pour pas qu'ils se fassent du mal. Enfin, c'est vraiment pas chouette.
Pour continuer, donc tu me dis, en gros, au mieux, ils ont un peu cours le matin, quelques activités sportives parfois, mais j'imagine assez peu d'activités sportives collectives, de type foot, hand, volley, toutes choses qui seraient amenées à les frotter les uns contre les autres et donc qui seraient potentiellement dangereux du point de vue de l'administration pénitentiaire, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est les activités sportives quand il y en a ?
Alors, ils ont accès à une salle de musculation. Ça, c'est assez classique. Et ça arrive qu'ils aient des activités en collectif. Alors voilà, c'est toujours les mêmes groupes. Hein. Donc, c'est-à-dire que c'est à 4 ou 5 jeunes maximum. Donc, t'imagines un match de foot à 4 ou 5, c'est pas génial, mais bon. Mais ça, c'est une vraie réalité aussi de l'incarcération des adolescents. C'est qu'il y a une vraie dégradation aussi du corps. C'est-à-dire qu'ils bougent plus. En fait, ils sont enfermés tout le temps. Donc, ils ne se dépensent plus. Ils bougent pas. Et voilà, le corps s'abîme beaucoup. Et ils ont assez peu accès aux soins en réalité, puisque tu vois, nous, donc c'est un quartier qui accueille maximum 20 personnes. La prison, elle a environ 300 places. T'imagines bien que nos 20 mineurs, c'est pas la priorité pour le service médical. Donc ils ont assez peu accès. Puis en plus, ils ont, c'est des professionnels de santé qui sont pas spécialisés pour les mineurs. Du coup, ils ont pas accès à... typiquement, il y a beaucoup de jeunes qui ont des appareils dentaires, ils n'ont pas d'orthodontiste en détention. Et puis en plus, ils ont des délais d'attente qui sont extrêmement longs quand ils ont besoin de voir un médecin, quand ils ont un souci de santé.
Tout de suite, t'évacues une chose, d'après ce que je comprends, tu étais dans un quartier où il n'y avait que des garçons.
Oui.
D'accord, parce que les problématiques de santé de femmes incarcérées, et en particulier d'adolescentes, ça peut être un peu différent. Je le mentionne là parce que c'est aussi des problématiques autour des règles, des protections. Et pour les filles adolescentes qui ont des règles irrégulières, ça peut être extrêmement compliqué. Pendant que tu as travaillé, tu as quand même travaillé un certain temps dans ce quartier, il y a eu des jeunes qui ont été malades et pas soignés comme il fallait suffisamment rapidement.
Alors heureusement, quand il y a des vraies urgences, là ça bouge. Typiquement quand ils se battent, il n'y a pas très longtemps, ils se sont battus et il y en a un qui s'est fait couper toute la joue et là il y a eu une réaction assez rapide. Il a pu être extrait jusqu'à l'hôpital et être recousu. Mais après, quand il y a des petites maladies un peu somatiques, on leur donne du Doliprane, mais ça s'arrête là. L'accès au médecin, un vrai médecin, c'est hyper compliqué parce qu'il y en a... qu'un qui n'est même pas à temps plein pour l'ensemble de la détention. Donc généralement, on soigne avec... parce que nous, on ferait aussi à l'extérieur, mais c'est pas vraiment ce que nous, on pourrait appeler soigner quelqu'un.
Oui, mais ce que tu ferais à l'extérieur, c'est que si tu te rends compte que ça va pas, t'emmènerais chez le médecin un peu plus rapidement, quoi. Je veux dire, tu peux donner un Doliprane et le lendemain te dire « je vais faire autre chose quand même parce que c'est pas suffisant le Doliprane », je veux dire...
Ils ont très très souvent des gros problèmes de dents quand ils arrivent en détention. Parce qu'en fait, quand ils sont à l'extérieur, c'est vrai qu'ils consomment énormément. Du coup, ils ont tendance à s'anesthésier, à ne pas se rendre compte de la douleur. Et quand ils sont détenus, pour le coup, ils n'ont plus le choix. Et ils se confrontent à leurs problèmes de dents. Et en fait, c'est pareil, il y a un dentiste qui est à mi-temps pour toute la détention. Donc il y a des délais qui sont insupportables pour eux. Donc ils doivent... supporter jusqu'à ce qu'on accepte enfin de les soigner.
Bon, quand ils arrivent là, ils sont, alors moi je vais dire condamnés à une peine, hein, parce que c'est quand même de cet ordre-là, qui a une durée déterminée. Comment peut se faire le passage vers la sortie? Alors je parle d'abord de ceux qui, effectivement, admettons, il a 16 ans, il arrive là, je ne sais pas de quelle durée sont les peines moyennes, hein, en gros, quand ils arrivent en milieu carcéral.
Je crois que la peine moyenne, c'est à peu près 4 mois pour un mineur. Mais en réalité, tu vas avoir des gamins qui sont là pendant 2 semaines. Alors ça, c'est une véritable aberration. Souvent, les juges prononcent des peines hyper courtes. Donc c'est hyper désocialisant, ils sont complètement coupés. Bon, bref. Mais tu vas aussi avoir des gamins qui sont là pendant... et ça, j'en voyais de plus en plus sur la fin de ma mission, là. Qui sont là pour 2 ans, voire plus. Et donc, je te laisse imaginer comment est-ce que tu peux te construire quand tu as 16-17 ans et que tu fais 2-3 ans de détention, quoi, et que tu sors, bah, t'es jeune majeur, t'as 18-19-20 ans et tu connais rien à la vie, en fait, et tu t'es construit en détention.
Et justement, quand tu es arrivé, t'as 17 ans, t'as 2 ans, ça te fait 19, ça te fait majeur, tu restes dans le quartier de mineur. Comment ça se passe à ce niveau-là?
Il y a une règle qui dit qu'un jeune peut rester jusqu'à 18 ans et 6 mois au quartier mineur s'il le souhaite. Donc déjà, ça demande à ce que lui soit dans cette demande-là, parce que c'est pas toujours bien vu de rester au quartier mineur. Ça fait un peu, ouais, t'es un peu fragile. Donc ça, c'est déjà une chose. Et sinon, effectivement, 18 ans et un jour, ils sont transférés en détention homme, avec un voire deux co-détenus en cellule. C'est hyper violent. Et en plus, ils sont même pas assurés de rester dans le lieu de détention où ils étaient en tant que mineurs. Ils sont transférés là où il y a de la place. Alors s'ils ont été bien sages et qu'il n'y a pas eu trop d'incidents, l'administration pénitentiaire accepte de les arranger, entre guillemets, et de pas les éloigner trop de leur famille, de leurs proches. Mais s'ils ont été pénibles, pour le coup, c'est un bon levier pour l'administration pénitentiaire pour les punir et les envoyer parfois à des centaines de kilomètres de leur famille.
Sinon, de façon générale, en tant que mineurs, ils sont dans des centres de détention, enfin dans des prisons, qui sont à proximité de leur famille.
Tout dépend de la place, parce que, alors autant nous, en quartier mineur, on n'a jamais eu une surpopulation incroyable, mais il y a notamment ce qu'on appelle les EPM, c'est des établissements pénitentiaires uniquement pour mineurs, où là, il y a plus de places, une soixantaine, je crois, de places. Il arrive souvent qu'ils soient... pour le coup en surpopulation, et du coup bah, les jeunes vont être orientés ailleurs. Et après, il y a toute une logique de transfert disciplinaire aussi qui est assez incompréhensible. Si un gamin est trop difficile à gérer quelque part, le responsable du quartier mineur va faire une demande de transfert disciplinaire et il va être envoyé. Un matin, on va venir le chercher à 6h du mat en lui disant « bah voilà, fais tes cartons, là tu te casses », on lui dit pas où il va. Et il peut être, pour le coup, là pareil, envoyé à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui. Et ce qui complexifie encore plus le lien avec la famille, le travail de réinsertion. Voilà, quand on est super loin de chez soi, on a beau avoir un éducateur qui est là au quotidien avec nous en détention, c'est compliqué de construire un projet qui tienne la route.
Quel est toi d'abord en tant qu'individu, je parlerai de toi en tant que militante syndicale après, mais quel est toi en tant qu'individu, le sentiment que tu as eu de ton efficacité ou de ton inefficacité dans ce milieu carcéral?
En fait, quand tu es dedans à l'instant T, il y a un côté très valorisant parce que les gamins sont hyper en lien. De fait, t'es la seule personne à leur apporter un tout petit peu d'humanité. Donc ils s'accrochent à ça, ils en ont besoin et tu passes des super moments. Mais en réalité, quand tu prends de la hauteur, et notamment du coup, moi en 4 ans, j'ai pu voir le nombre de gamins qui reviennent, en fait, qui sortent, qui reviennent. Enfin, je veux dire, c'est. Non, c'est, enfin, la détention, c'est pas du tout une solution. C'est-à-dire qu'on peut entendre que ça. Comment dire, que ça assure une certaine protection peut-être de la société si on estime que le gamin est vraiment dangereux, mais sur du long terme, on fabrique des futurs adultes qui sont remplis de haine, de colère, parce qu'en fait, voilà, à force d'être humilié, d'être déshumanisé au quotidien, de perdre toute ta dignité, en fait, quand tu ressors, t'as encore plus... Et ils le disent très bien, ça. J'ai encore plus la haine quand je sors, et j'ai encore plus envie de tout niquer. Voilà, ils disent ça. Et franchement, ils le disent... beaucoup le disent.
Ouais, t'as répondu à une de mes questions qui était un peu sous-jacente, effectivement, qui était celle de la récidive. Du retour dans le quartier, t'en as eu donc des jeunes qui revenaient, qui étaient sortis et qui revenaient.
Ouais, il y en a franchement un certain nombre. Beaucoup en fait, quand ils rentrent, ils déconstruisent la peur qu'ils pourraient avoir de la prison et ils se disent bah finalement ça va, j'ai survécu, je suis ressortie, tout va bien, c'est pas bien grave si j'y retourne. Et puis voilà, le cadre qui est posé par l'administration pénitentiaire est pas toujours bien cohérent, c'est-à-dire que théoriquement, bon bah on n'a pas le droit de fumer quand on a moins de 18 ans en France, pour autant en détention on les laisse consommer assez facilement. Voilà, donc ils se disent, bon, bah voilà, c'est pas si grave, finalement, je fume mon joint, je suis en cellule, je suis tranquille, je suis avec mes potes. Et à la fois, quand même, ils ont bien conscience à quel point ça dégrade leur état physique et psychique, mais pour autant, ils se disent que, bon, c'est pas si grave. Et du coup, effectivement, il y a beaucoup de récidives, ouais.
Alors, tu es syndicaliste au SNPES, PJJ, FSU, tu y as des responsabilités régionales. Et à cet égard, j'aurais deux questions à te poser. La première, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on fasse mieux en milieu carcéral? Est-ce qu'il y a aussi une question de moyens qui pourraient être mis en place pour que les choses se passent pas si mal? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment une solution? Là, tu as partiellement répondu à ça. Est-ce que la loi Attal, c'est une bonne solution? Mais d'abord, la première question.
Non, alors moi, je pense fondamentalement que quoi qu'on fasse, le cadre pénitentiaire, le cadre carcéral n'est pas du tout adapté. En fait, de ce que j'ai pu observer, il y avait deux types de gamins. Il y avait des gamins dont on pouvait absolument s'occuper en milieu ouvert. Voilà, pour qui c'était, les choses étaient possibles, on pouvait encore les inscrire dans du droit commun, à l'école, travailler avec les familles, pour que ça se passe bien. Et puis il y avait ceux vraiment qui étaient en grande souffrance, mais ces gamins-là, en fait, ils relèvent du soin. Et ça parle surtout du manque de moyens qu'il y a dans les établissements de soins, notamment psychiatriques. Voilà, parce que faut se le dire, il y a des adolescents qui sont en grande souffrance aussi. Donc je pense qu'en fait, la prison, c'est jamais une solution. Voilà, soit c'est un gamin qu'on peut aider dans son environnement, soit c'est un gamin qui a effectivement besoin de beaucoup de ressources externes et de soins, et que du coup, il relève d'un établissement de santé. Sur la deuxième question, effectivement, non, c'est pas une solution, parce qu'on les désocialise complètement, ils sont coupés du monde, et je crois pas qu'on puisse trouver sa place dans la société en tant que futur adulte quand on est coupé du reste, quoi.
Oui, en fait, on fabrique... On achève la fabrication de gens qui vont être en dehors de la société, contre la société, et effectivement remplis de haine contre cette société. Mais écoute, je te remercie, c'est assez effrayant hein, de t'entendre. C'est bien que je suis très contente de te donner la parole, parce que je pense qu'il faut vraiment entendre cette parole-là, parce que... Je crois qu'on ne l'entend pas assez et qu'on s'imagine, à travers certains discours, quelque chose de très soft et qu'à t'entendre, on perçoit une réalité qui serait aisément celle du début du XXe siècle, hein, voire de la fin du XIXe siècle. On n'a pas l'impression qu'il y ait eu tellement d'évolution à cet égard. Merci beaucoup, Loris, et puis bonne continuation dans tes nouvelles missions.
Merci Elisabeth.
Au revoir.
Au revoir. La 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 la.
La 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 la. Merci de nous avoir soutenus pendant cette année. La 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 la. Partout ce chant de révolte. Jusqu'à fleurir mes registres.
Vivre libre ou mourir.
Jusqu'à Fresnes et toutes les putains de centrales. Ouvrez la cage, ouvrez la cage, prenez la rage.
La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Service militaire, non disciplinaire. Hors mécanique, un cœur dedans, un nid violent, un pays de mort, il y a du sang. Pour envoyer au pénitentiaire, au deux télé, au deux écouter, au deux sortir, pour rien pour toi, tu recommenceras, que telle est la loi.
C'était Surveiller et punir, volet 2, la prison comme solution. Nous publierons un dernier volet sur la protection judiciaire de la jeunesse prochainement.
Retrouvez l'ensemble des contenus publiés par l'École émancipée dans sa revue et sur son site écoleémancipée.org.
Merci à Samuel Hirsch, créateur du jingle de ce podcast.
Écoute.
Écoute.
Émancipée.
Émancipée.
Le podcast de l'École émancipée.
Notre podcast se trouve sur la plateforme Spectre et sur vos services d'écoute préférés, avec beaucoup d'autres podcasts consultables sur spectremedia.org.
Spectre.